France Culture.
Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. Quand une banque française est condamnée pour complicité d'exactions commises par un gouvernement, BNP Paribas a été reconnue hier complice des sévices commis par le régime d'Omar el-Béchir au Soudan, en ayant autorisé des transactions commerciales dont les recettes ont financé l'armée, une décision de la justice américaine qui présage de poursuites similaires contre la banque. De la Pennsylvanie à la Géorgie, avant la Californie, dans quelques heures, des millions d'Américains battent le pavé aujourd'hui dans plus de 2600 villes. Une mobilisation massive pour dénoncer la politique menée par Donald Trump et ses attaques envers la démocratie. Eux dénoncent les attaques envers les personnes trans qui se multiplient sur tous les terrains. Un large collectif d'associations s'est mobilisé aujourd'hui à Paris à l'occasion de la marche Exit Trans Inter. Enfin, nous reviendrons sur l'opération 24 heures civiques, initiative visant à donner une heure de son temps pour participer à une mission solidaire et qui suscite de plus en plus d'engouement. BNP Paribas a donc été reconnu hier complice des violences commises au Soudan sous la dictature d'Omar el-Béchir, en ayant concouru à des transactions commerciales dont les recettes ont financé l'armée et les milices du régime, d'après un jury populaire à New York. Bonsoir Olivier Vogel.
Bonsoir Julie.
Les jurés ont ainsi condamné la banque à verser près de 21 millions de dollars de dommages et intérêts à 3 réfugiés soudanais, désormais citoyens américains, ayant subi sévices et tortures au début des années 2000.
Oui, à l'audience, les 3 réfugiés soudanais, une femme et 2 hommes, ont longuement détaillé leur calvaire sous le régime d'Omar el-Béchir. La prison, les tortures, les viols, les brûlures de cigarettes, les lacérations au couteau. Or, à l'époque, la BNP Paribas, présente au Soudan, a organisé, selon la justice civile américaine, des transactions commerciales dont les recettes ont permis de financer l'armée et les milices du régime, d'où la complicité. Il faut préciser que la banque avait déjà été inquiétée il y a 11 ans par la justice pénale américaine pour avoir contourné un embargo qui visait le Soudan pour éviter le procès. La BNP avait alors préféré signer un chèque colossal de 8,9 milliards de dollars. Pour la Fédération internationale des droits de l'homme, la condamnation de la banque hier à New York constitue une première étape importante. La FIDH, qui il y a 6 ans, aux côtés de la Ligue des droits de l'homme, a appuyé la plainte à Paris de 9 Soudanais, là encore contre la BNP, l'enquête est toujours en cours. Patrick Baudouin est le président d'honneur de la FIDH.
C'est vraiment un signal très très fort et c'est ça qui est important parce que, bien sûr, les condamnations méritent d'être prononcées quand il y a des responsabilités de cette ampleur dans le soutien à des régimes qui sont génocidaires ou coupables de crimes contre l'humanité. Mais au-delà, c'est aussi l'espoir qu'enfin, il sera mis un terme aux agissements en toute impunité de ces multinationales qui, uniquement pour faire du profit, au nom du business, ne se soucient absolument pas des bénéfices qu'elles procurent, ces institutions, à des régimes en place qui sont éminemment condamnables et condamnés au regard de toutes les règles du droit international pour des crimes de masse.
De son côté, la BNP Paribas a qualifié sa condamnation de manifestement erronée et a annoncé son intention de faire appel.
Olivier Vogel pour France Culture. Et ce conflit au Darfour fait 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés entre 2002 et 2008, d'après les Nations Unies. Omar el-Béchir a été destitué en 2019 après 30 années de règne et il est depuis recherché par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 9 personnes ont été tuées hier par des tirs israéliens dans un bus à Gazaville, affirme la défense civile de Gaza, qui précise qu'il s'agissait des membres d'une même famille qui cherchaient à vérifier l'état de leur maison. L'armée israélienne indique pour sa part avoir ouvert le feu sur un véhicule suspect en train de franchir la ligne jaune, la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de l'enclave. À Gaza, où par ailleurs 15 dépouilles de Palestiniens ont été restituées par Israël aujourd'hui, portant à 135 le nombre de corps rapatriés depuis lundi. No kings, les États-Unis n'ont pas de roi. Mot d'ordre des manifestations massives aux États-Unis aujourd'hui contre le président Donald Trump et ses abus de pouvoir. Des millions d'Américains défilent en ce moment même au sein de 2700 rassemblements à travers le pays, de New York à Orlando, en passant par Atlanta, où vous vous trouvez, Isabelle Labéry, bonsoir.
Bonsoir.
Et les manifestants rappellent leur attachement à la démocratie et à l'état de droit, Isabelle.
Oui, à leur constitution aussi malmenée par un président de plus en plus autoritaire. Dans la foule très dense ici, Jennifer, 63 ans, enseignante à la retraite sur un grand carton qu'elle brandit au-dessus de sa tête. Elle a écrit cette phrase : « Un jour, le peuple a dit non ».
C'est ce que nous sommes en train de dire. Non, nous en avons assez de ce gouvernement. Assez de voir nos droits bafoués. Assez de voir nos voisins se faire arrêter dans la rue par des hommes masqués. C'est terminé.
Et vous pensez que ce pays est toujours en démocratie ?
Je ne sais pas. Mais si nous sommes toujours, alors nous sommes sur le point de la voir disparaître. Un gouvernement autoritaire, ce qui se passe aux États-Unis. Ça me fait pleurer. Je n'aurais jamais pensé voir ça ici.
Les grandes voix du Parti républicain accusent les manifestants d'être anti-américains. C'est tout le contraire, dit la foule rassemblée ici, qui veut tout faire pour que le mouvement reste pacifiste. L'objectif est de faire mieux qu'en juin, quand 5 millions de personnes étaient descendues dans les rues.
Isabelle Labéry en direct d'Atlanta, des rassemblements contre le président Donald Trump, qui sont également prévus au Canada frontalier aujourd'hui. Face à la prolifération des discours transphobes à travers le monde émanant de la droite conservatrice et de l'extrême droite faisant des trans leur nouveau bouc émissaire, les personnes trans et intersexes se sont une nouvelle fois mobilisées cet après-midi à Paris lors de l'Exit Trans Inter, marche annuelle organisée depuis 1997 dans la capitale, mais dont l'enjeu s'accroît, Servane de Pastre, car les attaques transphobes se multiplient.
Les pancartes sont de sortie, la colère aussi, car être une personne trans aujourd'hui, c'est un parcours du combattant et ça commence par le changement de prénom à l'état civil, explique Margot, la vingtaine.
Entre la première démarche à la mairie de Metz et le changement effectif, il s'est bien passé 2 ans. C'était que pour le prénom. Et ensuite, la mention de genre, ça a pris un nombre supplémentaire et ça me met toujours en difficulté parce que la sécurité sociale, par exemple, met plusieurs mois à changer l'identité alors qu'elle est changée administrativement. En fait, on est dans une impasse et on ne sait pas à qui ça.
Des difficultés administratives, mais aussi des difficultés d'accès au parcours de soins. Violette vient à la marche Exit Trans Inter pour la 2e fois.
J'ai eu des délais de la part de mon médecin traitant, qui en fait disait, quand je lui en ai parlé au début, qu'il allait pouvoir m'accompagner dans la démarche, sauf qu'au fur et à mesure des mois, 3 mois, 6 mois, il m'a finalement dit qu'il comptait pas le faire. J'ai dû de moi-même contacter des associations pour trouver des médecins capables de me prescrire mon traitement hormonal, etc. Ce qui a pas mal ralenti les choses.
Les associations le disent, des progrès ont été faits ces dernières années, notamment avec le rapport au mois de juillet dernier de la Haute Autorité de Santé. Il offre un cadre de prise en charge pour les médecins et dépsychiatrise le parcours de soins. Malgré tout, des efforts restent à faire, estime Anaïs Perrin-Prével de l'association À Outrance.
On est dans une période de bascule où on commence enfin à comprendre que la transidentité, c'est pas une maladie mentale et que c'est pas grave d'être une personne trans. Mais toute la société, en tout cas tous les politiques et tous les idéologues, ne sont pas forcément sur cette ligne-là.
Dans son viseur, notamment le Sénat, qui a voté l'année dernière une proposition de loi LR qui restreint fortement l'accès des mineurs au parcours de transition. L'Assemblée nationale doit encore se prononcer.
Reportage de Servane de Pastre pour France Culture. Moins de 48 heures avant le début de l'examen du budget à l'Assemblée et de sa partie recette en commission des finances, plus de 1700 amendements ont été déposés. Même si ce nombre pourrait baisser d'ici lundi en raison de leur irrecevabilité, les commissaires auront donc 3 jours pour les examiner avant l'examen du texte dans l'hémicycle. À noter que ce sont les députés du groupe présidentiel Ensemble pour la République qui ont déposé le plus d'amendements. Participer à des jeux de société en EHPAD, nettoyer les tombes d'un cimetière ou encore ramasser des déchets sur la voie publique. Voici quelques-unes des actions proposées aujourd'hui à l'occasion de l'opération 24 heures civique qui vise à donner 1 heure de son temps pour participer à une mission solidaire. Lancée après la crise sanitaire en 2022, ce projet porté par l'association Voisins Solidaires a noué des partenariats avec 225 communes de 5 départements. Et face à l'engouement des citoyens, Athanase Perifane, à l'initiative de l'événement, compte bien donner une ampleur nationale à ce dispositif.
Tous ensemble, au même moment, partout en France, dans chaque ville de France, on donne 1 heure pour les autres. 100 000 heures qui vont être réalisées, c'est le défi qu'on s'est posé, voilà. Et on est déjà à 70 000 heures inscrites. Je suis sûr que ce soir, on atteindra le compteur aux 100 000. On a bien vu aujourd'hui, une personne va en EHPAD, elle reste pas 1 heure, elle passe 2 heures avec les personnes âgées. Lorsqu'on va nettoyer un quartier, on prend pas 1 heure. L'idée, c'est de commencer par 1 heure, mais quand ça nous fait plaisir et que ça nous fait du bien, on passe du temps. C'est aussi l'occasion de rencontrer plein de gens sympas. On voit bien qu'on a un modèle social qui est un beau modèle social en France, mais qui est fragilisé, contraintes financières, vieillissement de la population. On voit bien que l'institution, on peut pas tout faire. L'idée, c'est 24 heures civiques, c'est de se dire, à un moment, chaque citoyen va se prendre en main pour réaliser une action d'entraide de citoyenneté, de solidarité. Et surtout, cette heure civique, elle rend heureux. Tous les volontaires de l'heure civique, quand je sillonne à la France, je vois partout des gens qui ont la pêche, qui ont la patate, qui sont heureux de se rendre utile. Une heure par mois, c'est pas beaucoup. Chacun d'entre nous, on peut le faire. Mais quand on est très, très nombreux à donner une heure par mois, ça fait beaucoup de temps.
Athanase Périphane, micro France Culture de Rachel Escolano. Fini les éclaircies demain avec l'arrivée d'une perturbation océanique qui va balayer le pays d'ouest en est. Les températures minimales affichent 3 à 8 degrés en général dans l'est, 7 à 13 sur la moitié ouest et 10 à 15 degrés au bord de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.